Bonjour Luc, comment vas-tu?
Bonne et heureuse année à toi.
Ben à toi de même, à toi de même. Passez des belles fêtes.
Oui, formidable, formidable. Oui. J'arrive de Paris, dans le monde des
Paris.
Gilets jaunes.
Oh, de Paris? Oui. As-tu des problèmes avec les gilets jaunes?
Je les ai vus.
Tu les as vus, mais...
Je les ai vus, mais j'ai surtout passé tout le temps que j'étais là, c'est-à-dire 8 jours, à chaque fois que je pouvais engager la conversation avec un Français, un voisin de table, un garçon de table, un chauffeur de taxi ou qui vous voulez... Pour leur demander ce qu'ils pensaient de la situation, j'en suis revenu assez... Ouf, je te le dis que c'est une société qui est au bord de l'explosion.
Ouais,
c'est une
société
qui est sur le point là, d'éclater là, de partout.
Exact.
Vraiment, là, c'est assez... En fait, c'est assez inquiétant. C'était pas notre sujet choisi, là, mais je peux t'en dire quelques mots parce que ça m'a vraiment frappé, moi qui adore Paris et qui fréquente Paris depuis si longtemps. Il y a un mécontentement, un malaise profond, un rejet... des institutions, un rejet du rôle de l'État. Et il y a derrière tout ça, évidemment, les relations entre les Français de souche et la communauté musulmane qui est là, et qui est là constamment présente dans l'esprit de tous. Et on arrive au point où les gens commencent à craindre qu'il va y avoir des violences intercommunautaires.
Ouais.
Et là, ça va commencer à ressembler à...
Mais les dérapages s'en viennent, là.
Ben, il y en a déjà eu. Et là, samedi, ce que les gens n'ont pas noté, vu d'ici, fallait être là pour le comprendre.
Ouais.
C'est que ça a pris une nouvelle dimension. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, jusqu'ici, c'était pas organisé, sauf un peu avec les médias sociaux. Il y avait pas vraiment de leadership.
Ouais.
C'était des mécontents venus de la province et qui montaient vers Paris pour leur dire votre taxe sur le carbone, vous savez quoi faire avec. Et là, ça a pris une nouvelle dimension. Et samedi, on l'a vu dans le geste suivant qui s'y a été posé. Il est arrivé un commando portant des gilets jaunes, mais on l'appelle un commando parce que c'était tellement professionnel comme exécution.
Bien organisé,
super bien organisé, au point où on se dit ce sont des militaires à la retraite ou des militaires encore actifs.
Ouais.
Ils ont pris le contrôle de ce qu'on appelle le ministère des Relations avec le Parlement, qui est au fond l'équivalent du ministère de l'Information, où se trouve le porte-parole officiel du gouvernement, puis le système de communication du gouvernement. En 2 temps, 3 mouvements, avec des béliers de façon hyper professionnelle, ils sont entrés sur les lieux, ils ont menacé d'enlever le ministre porte-parole du gouvernement. La police française est arrivée juste à temps pour empêcher ça. Ils sont ressortis de là, puis encore une fois, en 2 temps, 3 mouvements, ils sont disparus dans le décor. Personne ne sait c'est qui. Alors là, les gens se disent, oh, là, il commence
là,
à y avoir
organisé,
des pros.
Ouais, c'est ça.
Il commence à y avoir des gens qui veulent vraiment la guerre civile.
Ouais.
Et là, là-bas, à Paris, c'est comme...
Parce qu'il y a moins de mobilisation, puis on sent aussi qu'il y a beaucoup de groupes de pression qui sont en train d'utiliser cette espèce de véhicule-là, des Gilets jaunes, pour leur propre agenda, et non plus pour défendre ce qui était à la base quelque chose qui...
Ils contestaient la taxe sur le carbone.
Oui, puis et aussi l'organisation territoriale un peu partout dans les régions où il y avait
moins
de moyens.
Fondamentalement, le déclencheur, c'était la taxe sur le carbone.
Ouais.
Parce qu'il faut toujours se rappeler que la France, c'est payé le plus taxé. Au monde.
Ouais.
Au monde. Évidemment, leur filet social fait l'envie du monde entier aussi, mais ça coûte une fortune. Alors, Macron a commis une terrible erreur. C'est un pays qui doit avoir des réformes s'il ne veut pas finir comme la Grèce. Ils sont au bord du précipice financièrement.
Ouais.
Et soit que tu coupes des services, soit que tu augmentes les taxes. Et il a été trop loin. Ça a fait exploser la marmite. Et là, tous ceux qui ont un malaise, qui ont quelque chose à reprocher au gouvernement, portent le gilet jaune.
Ouais.
C'est toutes sortes de revendications en même temps. Il y a un rejet fondamental de toutes les élites du pays.
Mmh.
On se dit, on en a assez de ces gouvernements où tous les ministres viennent des mêmes écoles, puis ils se connaissent entre eux, puis nous, on paye, puis on paye, puis on paye. Puis là, ils nous arrivent avec une taxe, ils leur ont dit une taxe sur le carbone. Pourquoi? Les gaz à effet de serre. Je te dis que quand tu arrives à la fin du mois, puis qu'il te reste 75 euros après avoir payé ta maison, avoir payé ton épicerie, puis avoir payé ton auto, puis là, tu te dis, moi, en plus, je vais être obligé de payer une taxe spéciale parce qu'il y a un télo qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête de dépenser du pétrole. Et là, ça a explosé, mais le malaise est beaucoup plus profond et ça risque d'aller très, très loin, tout ça.
Mais ce n'était pas notre premier sujet. Tu veux me parler quand même de la SQDC et Québec qui pourrait perdre de l'argent, mais y a-tu quelqu'un qui a pensé qu'on ferait de l'argent avec ça en partant?
Ben non, mais l'affaire qu'est, c'est que si on perd de l'argent avec la SQDC, d'abord en soi, ça va être la première fois sur la planète Terre qu'il y a du monde qui perd de l'argent avec la drogue.
Avec la drogue, ça c'est sûr.
J'ai jamais vu ça. Deuxièmement, ça va être une des premières fois qu'on voit une société d'État monopolistique perdre de l'argent aussi. Mmh. Et puis, troisièmement, c'est parti pour devenir la joke, la farce de l'année. Je veux dire, ces gens-là se sont trouvés syndiqués 24 heures après l'ouverture des magasins.
Exact.
Alors, ce que dit aujourd'hui l'économiste Germain Belzile, qui est associé à l'Institut économique de Montréal, c'est « il n'est pas trop tard, monsieur, madame du gouvernement, arrêtez ça. Faites comme en Ontario. Il n'y a pas d'affaire à avoir de commerce de drogue entre les mains de l'État. Mmh. Vous êtes là pour réglementer. Et revenez en arrière, fermez les SQDC, parce qu'on va se réveiller à la fin de l'année avec un déficit de, je ne sais pas moi, je vais avancer un chiffre modeste, 50 millions de déficit. Mmh. Toi, disons, Louis, ton voisin, un tel, un autre, ça ne consomme pas de potes, même qu'il y ait seul potes. Mmh. Mais ils vont le payer avec leurs taxes. Ils vont payer les poteux avec 90 millions de dollars de leurs taxes. C'est scandaleux, c'est inacceptable. Et il faut se souvenir dans ce débat-là qu'avant que le gouvernement décide de créer cette espèce de société de fous, un monopole de la vente du pot, il y avait Alain Bouchard, des couche-tards, qui disaient « Nous sommes des commerçants. Nous, on sait comment faire marcher ça, un commerce.
Ouais.
Alors, on voudrait avoir la licence.
Ouais. »
Là, ils ont dit « Mais voyons donc, on ne peut pas permettre à l'entreprise privée de vendre du pot. Ah non, il faut que l'État devienne un commerçant de pot.
Ouais. »
Et tu as eu à côté de ça les Jean Coutu et les Pharmaprix qui ont dit la même chose. « Nous sommes habitués à vendre des drogues, des opioïdes, des ci, des ça. On est capable de contrôler. » Non. En Ontario, ils ont reculé. Ils avaient pris le modèle du Québec, ou l'équivalent du modèle québécois. Puis Doug Ford, quand il a été élu, il a dit c'est fini, c'est l'entreprise privée, puis c'est fini.
Tu as vu ce qui s'est passé en Colombie-Britannique aussi. Parce que les autres, il y en avait déjà des magasins qui vendent du pot, là, depuis des années, là. Puis des magasins qui ont pignon sur rue, là, à Vancouver. Il y en a plein, là. Et puis, ils ont dit, ben, on va vendre des licences pour ouvrir des magasins de l'État. Il y en a quatre qui ont dit, ben, nous autres, on en veut. Les autres, pourquoi on prendrait des licences? On est capable de vendre déjà.
Brunet, qui est maintenant à la retraite, qui était le président de la SAQ et qui était responsable, parce qu'après tout, la SQDC, c'est supposé être une filiale de la SAQ, avait dit, on pense que notre première année, on va être capable d'arracher 30 % du marché noir, du marché du crime organisé. On est pas mal loin de cela. Là, on est plutôt à quelque chose qui ressemble à l'époque soviétique. Tu rentres dans un magasin d'État, tu regardes les étagères, sont vides.
Ouais.
En fait, là, tu n'arrives pas en disant « je voudrais tel ou tel produit », comme ils faisaient en Union soviétique. Tu arrives, tu dis « qu'est-ce que vous avez ?»« Ah, OK, j'en veux.
Ouais. »
Ou « OK, j'en veux pas. »
Mais en même temps, il doit y avoir quand même un certain contrôle de l'État sur la qualité de ce qui est vendu, puis la façon dont on le vend.
Les pharmacies, Louis. Il y a un contrôle de l'État sur la qualité de ce qui est vendu, puis c'est de l'entreprise privée. Puis je vois pas pourquoi le gouvernement, autant là que dans la SAQ d'ailleurs, monopolise des activités comme celle-là à des coûts faramineux. Je veux dire, ce ne sera pas très, très long. Là. À l'heure actuelle, les employés de la SAQ, sur lequel le modèle va être copié parce que la SQDC, essentiellement, ils font la même chose. Ils vendent des produits. Il y en a un qui vend du vin, puis l'autre, il vend du pot.
Ouais.
Mais là, ils vont doubler les revenus de ces gens-là. Les coûts fixes vont aller en augmentant d'une façon dramatique. Ils ouvrent 4 jours par semaine au lieu de 7, comme autrefois, mais ils n'ont pas mis personne à pied. Les coûts sont en train de s'accumuler. Les systèmes logistiques et de distribution sont pas en place. C'est une farce monumentale et c'est une démonstration quasi caricaturale du fait que l'État, quand il vient se mêler du secteur privé comme le commerce, c'est certainement pas le rôle de l'État de faire du commerce au détail, n'est jamais capable de réussir.
Mais en fait, il y a un autre point que moi je trouve un peu inquiétant aussi, c'est qu'on nous avait dit, regardez là, on fera pas de profit avec. On veut pas faire de profit avec la vente de pot. On va prendre les profits, puis on va mettre ça en prévention. On va faire des campagnes de prévention. Mais là, alignés comme ils sont là,
ils vont plutôt aller dans tes poches, ils vont prendre ton argent de tes taxes, puis ils vont venir éponger le déficit pour payer du monde deux fois le prix du marché, puis pour entretenir des magasins qui sont vides.
Faites-vous-en pas que les campagnes de sensibilisation, ils vont y faire pareil, là. Sauf qu'ils pourront pas y faire avec les profits parce qu'il n'y en a pas de profit.
Ça n'a pas de bon sens.
Fait qu'ils vont venir chercher de l'argent dans les poches du monde.
Puis là, t'as Legault qui, pour faire plaisir.
Pour leur dire de pas fumer.
Le gouvernement Legault, pour faire plaisir à sa petite gang de sa base, là, dit, ben, ça va être 21 ans au lieu de 18. Qu'est-ce que tu penses que ça fait, ça? Ceux de 18 ans qui fument, on le sait qu'il y en a beaucoup, là. Mais ils vont sur le marché noir.
Ouais.
Je veux dire, je connais des bons consommateurs de potes. Ils me disent, j'ai pas aucune envie d'aller à SQDC. J'ai du bien meilleur service par mon pusher.
Mais écoute, regarde, on lance cette question-là, Luc. Tiens, je vous invite à nous appeler. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Y allez-vous dans les SQDC pour vous approvisionner? Excusez-moi, ceux qui en consomment là, du cannabis, je parle pas aux gens qui en fument pas, là, mais les gens qui en consomment,
Allez-vous là ou si vous continuez de parler à votre pusher?
Exactement. Alors, on va commencer. Est-ce que Sylvain est là? Bonjour, Sylvain.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Ça va, bonjour. Bonne année à vous.
Ça va très bien. Je vous remercie beaucoup de partager votre auditoire. J'aimerais parler de M. Lavoie. Moi, personnellement, je suis un pro-société d'État. Puis, je travaille pas pour la SQDC. Moi, le problème, je crois fermement, est-ce que vous êtes au courant, ça coûte 85 cents de produire un gramme de pot au producteur privé?
Probablement. Non, je suis pas au courant, mais je vous crois.
85 cents. Savez-vous combien qu'on le paye?
Non.
On parle de 3-4 $. Moi, je vais vous dire 3-4 $ du gramme. Moi, je suis un acteur de la SQDC. Moi, j'aimerais ça en tant qu'actionnaire de la compagnie. Je suis un Québécois. C'est notre compagnie. J'aimerais qu'elle nous rapporte. Moi, je pense que à la quantité de marijuana qu'on achète, on parle de tonnes. Si ça coûte 85 cents pour produire un gramme, je m'excuse, ben 1,5, ça serait quand même bien payé, considérant qu'on va en acheter régulièrement. Moi, je pense que le problème, c'est les acheteurs à la SQDC, je ne sais pas quelle entente qu'ils ont, si on a un fournisseur particulier ou s'ils peuvent faire affaire avec plusieurs fournisseurs, mais je pense que la lacune est là, parce que moi, personnellement, considérant que les soins de santé ne cessent d'augmenter, je crois qu'on a une possibilité d'aller chercher un revenu dans cette société-là qui est, pour le moment, on s'entendra, mal gérée. C'est mon opinion là-dessus.
Ouais, mais quand Mme Charlebois a lancé la SQDC à l'époque, là, elle nous avait dit qu'il n'y aurait pas d'argent à faire avec ça. Ouais. Il nous l'avait dit. Déjà, en partant, le but, c'était pas de faire
ça. Puis il y a un problème, c'est que c'est un marché concurrentiel, que ça nous plaise ou non, parce que la concurrence, c'est les Hells Angels. Ouais. C'est pas très, très plaisant, mais ils n'ont pas de coûts fixes, eux autres. Non, ils n'ont pas de syndicats. Puis ils n'ont pas de salaire double de ce qui se paye dans le marché au détail. Puis eux autres, ils sont capables de faire...
avec vous.
Pardon?
Je suis d'accord avec vous, mais là, on est rendu là. Le pot est rendu légal. Pourquoi ne pas faire de l'argent, négocier les prix qu'on paye?
Parce que les coûts fixes sont trop élevés, monsieur. Les coûts fixes vont être trop élevés. Ils vont se faire faire une guerre des prix par le crime organisé, puis ils vont perdre.
Non, non, mais moi, je parle à l'achat aux producteurs privés. Nous autres, on achète aux producteurs privés. Comment ça qu'on le paye si cher? On devrait payer moins cher. Puis justement, on rentrerait dans notre argent et on pourrait chercher du bénéfice. Malheureusement, les producteurs privés, quand on va voir les sources, qui a ça? Souvent, on entend parler de paradis fiscaux, on entend parler de lobbyistes.
Ouais, mais Sylvain, les Hells Angels, là, quand ils font pousser le pot dans un champ de maïs, là, les frais fixes
sont zéro.
Par contre, quand tu vas t'approvisionner chez un producteur privé, ben lui, il y a des normes à respecter qui sont imposées par le gouvernement. Pour ça que ça coûte cher, lui.
Mais comme je vous l'ai dit, à 85 cents le gramme, c'est pas normal qu'on paye 3-4 $.
Donc, il y a de l'incompétence dans ce système-là.
Mon argument, Sylvain,
c'est que c'est encore une démonstration de l'incapacité du gouvernement de poser des gestes comme de diriger des commerces qui ne sont pas dans sa mission de base. Le gouvernement n'existe pas pour vendre du pot ou du vin.
Voilà. On va aller parler à un autre auditeur qui a un nom prédestiné, Luc. Il s'appelle Justin. Bonjour, Justin.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, bonjour. Bonne année à vous.
Moi, je suis déjà allé à la SQDC une fois ou deux. Il y a une file d'attente, on attend, on se fait proposer, comme vous l'aviez dit, l'Union soviétique. Il y a juste une sorte ou deux, c'est du cannabis assez ordinaire. Donc, moi, ça me pousse à aller à voir mon pusher local. Puis, je veux dire, il y a moyen de s'arranger pour avoir assez de stock pour en vendre. Le gouvernement, c'est ça leur but. Ils veulent faire du cash avec nous. T'sais, moi, je pense qu'ils seraient capables de s'arranger pour toujours avoir assez de stock puis pouvoir fournir leurs clients. Mais moi, je pense qu'il y a une raison derrière ça. Je veux dire, si on compare à ce qui est arrivé en Californie à Humboldt, ceux qui font pousser du pot illégalement, les fermiers illégaux de pot, ben eux, on a fini par leur ouvrir la porte. On a dit, écoutez, vous pouvez fournir le gouvernement avec votre cannabis. Par contre, il va falloir payer des permis. Puis il y en avait pour plus de 100 000 $ américains. T'sais, moi, je pense que c'est comme ça que ça va finir. Je pense qu'ils ont un but, il y a un agenda derrière ça, le fait qu'ils soient toujours en manque de stock. Mais tu sais, on le sait pas, peut-être que c'est pas ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve que ça ferait beaucoup de sens.
Je suis plutôt d'accord avec l'économiste Germain Belzile. Avant que ça aille plus loin, là, avant que les conventions collectives soient rigidement en place, puis que les accréditations aient été données, puis que les baux aient été prolongés, fermez ça. Ça marche pas. L'expérience qu'on a vécue est catastrophique et risque de nous coûter, à nous, payeurs de taxes, une fortune qui va aller grandissante. Arrêtez ça avant qu'il soit trop tard. Confiez ça à des vrais commerçants. Je te garantis qu'Alain Bouchard puis son groupe de coucheteurs, ils sont capables de commercer. Ils vendent de la bière, c'est un produit restreint. Ils vendent des cigarettes, c'est un produit restreint.
Ils sont capables de vérifier les cartes.
Ils sont capables de vérifier les cartes bien comme il faut, en plus.
Merci, Justin. Au revoir. On va parler à Julie. Bonjour, Julie.
Arnaque.
Pardon?
Bonjour.
Julie?
Oui, bonjour. Bonjour.
Allô, Julie, on pensait que vous étiez partie. Bonne année à vous.
Merci, à vous aussi. Moi, je suis allée en SQDC avec une amie. On a 32 ans. On est des consommatrices de potes assez réguliers. Puis, c'était très décevant côté service. Je veux dire, déjà, les horaires restreints, la quantité, les produits qui sont pas disponibles, tout ça. Mon pochon, moi, il est en face de la rue. Il est disponible de 8 heures le matin à minuit le soir. Ces produits sont frais. Tandis que à SQDC, de la façon qu'ils sont emballés, le pot est sec, premièrement. Parce qu'il y a plein d'air dans le pot, tout ça, puis le pot devient super sec. Puis, l'impression qu'on a eue aussi, c'est que, tu sais, c'est pas comme quand tu vas à SAQ acheter, tu lui demandes quoi boire avec ton steak, il va te conseiller une bonne bouteille, puis il va essayer de t'en vendre une. Tandis qu'à SQDC, il va essayer de te dire de faire autre chose que fumer du pot.
OK.
C'est merveilleux d'avoir des magasins et donner comme directive à tes employés, je te défends de vendre.
Ben ouais,
tout
c'est
ce que
ça,
tu
exactement.
Peux pour ne pas vendre.
Ben, c'est ça, exactement. Puis comme si mon ami, admettons, lui demandait, moi, pour mon anxiété, j'aimerais ça un pote t'sais, qui va m'aider avec mon anxiété, etc. Ouais. Le petit vendeur d'une vingtaine d'années commence à lui dire, ben là, est-ce que tu as essayé d'autres méthodes pour ton anxiété? T'sais, le sport, la thérapie. Hey, le bozo, tu vas-tu faire une thérapie là sur place? Là? Voyons donc. Là,
votre pocheur dans la rue, il fait pas ça, hein, lui. Puis il n'y a pas de file d'attente en plus. Hein?
Non, exactement.
Ils font même de la livraison à domicile, comme on dit.
Exact. Puis en plus, les seuls conseils qu'il était capable de nous donner, les seules spécifications sur le produit qu'il était capable de nous donner, c'était la quantité de THC.
Ouais.
Ah. Donc, qu'il y en a un qui tousse plus ou pas, ils connaissent absolument rien de ça. Tout ce qu'il était capable de me dire, c'est dans lui, il y a tant de points de grammes de THC, puis dans lui, il y en a moins.
Bon.
Donc, ce que vous dites, ça tend à confirmer ce que je disais, une incompétence totale, une farce de mauvais goût.
Tous les gens autour de moi que je connais qui consomment ont conclu que c'est beaucoup plus idéal de commander par Internet que d'aller sur place.
Merci, Julie.
Merci.
Au revoir. Alors, voilà, une blague de mauvais goût. Oui, c'est ça, le mauvais goût. Ça laisse un goût. Hein? C'est ce qu'on me dit, moi.
T'as entendu ça à travers les bandes.
J'ai eu un tweet mystérieux là-dessus. OK, on s'arrête quelques instants. On vient de suite après avec Luc Lavoie. Restez là. Et Luc Lavoie, bien
et
sûr.
Et lui-même.
Bon, parlons d'une crise qui revient à chaque année, en fait, à peu près à cette période-ci, mais qui est constante. C'est la crise dans les urgences.
Écoute, moi, j'en peux plus de ça.
Ouais.
Me semble que ça fait, Louis, 25 ans, 30 ans, qu'à la même période de l'année, on m'explique que les urgences débordent, sont à 175 puis 200%. Le personnel est crevé. Il y a plus comme ils peuvent pas prévoir que la grippe hivernale elle arrive à ce moment-ci de l'année. Comment expliquer qu'après tant d'années, ils sont incapables, mais incapables de mettre en place des mesures pour que les gens sentent qu'ils sont traités,
alors,
qu'ils en ont pour leur cash avec leur taxe.
Qu'on met de plus en plus d'argent dans le système de santé, d'une part, puis qu'on injecte des centaines de millions supplémentaires à chaque année pour essayer de régler le problème, puis ça se règle pas.
Ça se règle pas, ça se détériore. Ouais. C'est pire d'année en année.
Ouais.
Alors moi, je reviens toujours avec une statistique que j'aime citer aux gens. En Allemagne, il n'y a aucune statistique disponible sur les listes sur les temps d'attente en urgence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps d'attente en urgence. En France, d'où j'arrive, il n'y a pas de temps d'attente en urgence. Ici, j'entends Legault, le premier ministre Legault, qui dit au mois de décembre, « Ah, c'est parce que les gens vont pas au bon endroit. » Hein? Ah oui, intéressant ça. Louis, je te pose la question. Tu es malade, là, tu te sens vraiment mal au point que tu penses qu'il faut que tu ailles à l'urgence.
Ouais.
Là, tu dis, ben, il paraît que je ne vais pas au bon endroit si je vais à l'urgence de l'hôpital. Tu vas où? CLSC? Il est fermé, puis il n'y a pas de médecin à cette heure-là. Une super clinique, je ne sais pas elle est où, la super clinique.
Ouais.
Une clinique privée, probablement que c'est là que tu vas finir, puis c'est ça qui devrait encourager. C'est la seule affaire qui semble marcher.
Ouais.
Alors, à un moment donné, non, quand tous nos budgets auront été gobés par la santé, c'est ça qui est en train d'arriver. On est à 50% du budget de la.
Puis à chaque année, ça augmente d'à peu près 5%.
C'est ça. Ouais. Alors, avec la population vieillissante, un système totalement dysfonctionnel, un personnel qui est à bout de souffle parce que ils sont eux-mêmes victimes de leurs propres conventions collectives qui sont impossibles à gérer et à administrer.
Ouais.
Alors, tu te retrouves avec un système de fou, un système nationalisé qui marche de plus en plus mal. Et à chaque année, j'arrivais pas avec une grande nouvelle pour toi, Louis. Tous les Québécois savent ça. Quand on vient de traverser Noël, là, on arrive au début de l'année, les urgences débordent. T'attends 12 heures, 14 heures, 15 heures. C'est de la folie pure. De la folie pure.
Mais en même temps, tu sais, on parle à Mme McCann, la ministre de la Santé.
Elle vient du système, fait qu'elle trouve que ça marche bien.
Hein? Ben, puis là, tu lui demandes, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, elle dit, ben, il faut...
Une table ronde où on va mettre tout le monde ensemble.
Oui, mais en même temps, elle dit, à propos des affaires... Qui ont l'air à faire du sens. Là, elle dit il faut ouvrir davantage de cliniques.
De super cliniques.
De super cliniques.
Oui.
OK, parfait. Combien? Ah, ben là, on le sait pas.
On va faire une étude là-dessus.
OK, mais vous savez pas combien.
Puis
combien ça va coûter? Ah, ben ça, ça coûtera ce que ça coûtera.
Puis là, je pense qu'il y en a 25 ouvertes. Louis, je vis dans cette société, j'ai des enfants, des petits-enfants. Tu me dirais. Veux-tu aller à la superclinique? J'ai aucune idée, c'est où? Aucune idée.
Ouais.
Ils sont même pas capables de penser un programme d'information pratique pour dire si vous avez des symptômes ressemblant à la grippe, voici les endroits qu'on vous recommande d'aller. Mais on veut pas que vous engorgiez les urgences parce que là, on aimerait ça s'occuper des accidentés puis des gens qui vivent vraiment des urgences qui les amènent au bord de la mort. Voulez-vous garder, vous avez tel type de symptômes, allez là. Mais je ne sais pas où aller. Les gens, ils savent pas où aller. Fut un temps, c'était les CLSC.
Mais tu vois, à Québec, ils ont parti un modèle. À un moment donné, ils en ont fait une au Québec seulement.
Oui,
alors,
oui.
T'as une clinique avec des super infirmières.
C'est ça, ça marche.
Qui a été financée, soit dit en passant, il veut pas le dire, là.
Mm-hmm.
Mais qui a été financée par qui?
Par qui?
Par Pierre-Carl Péladeau. Qui est arrivé à un moment donné, quand il y a eu tout le problème de financement de cette clinique-là.
Oui,
là,
oui.
Il manquait 280 000 piastres. Puis bon, qui a allongé l'argent?
Pierre-Carl
Péladeau. Il est arrivé puis allongé l'argent. Puis là, après ça, ben quand ils ont vu, ben OK, Pierre-Carl va le faire. Là, à l'époque, le ministre Barrette a dit, ben là, c'est pas vrai qu'on va avoir l'air des épais. Puis le chef de l'opposition qui va allonger l'argent pour maintenir une super... Alors là, ils ont donné des subventions pour... Mais il n'y en a rien qu'une. Et comment ça fonctionne? Il n'y a pas de médecin là-dedans. Là.
Ben oui, ce sont des super infirmières.
C'est des super infirmières. Puis qui font un excellent travail.
Ils font un excellent travail.
D'avoir un médecin pour diagnostiquer.
Mais pourquoi les pharmaciens n'ont pas le droit, comme ils l'ont en Europe, de te prescrire des antibiotiques quand ils voient immédiatement... Il y a des fois, il y a des symptômes qui ne trompent pas. Là.
Ouais.
T'as pas besoin d'être un médecin spécialiste d'avoir étudié pendant 10 ans à l'université dans une école de médecine pour savoir que c'est une otite. Ou bien non, pour savoir que c'est des ganglions, que ça, tu sais, c'est une coqueluche. Tu sais, je veux dire, les super infirmières sont tout à fait capables de le faire. Les pharmaciens sont capables d'intervenir. Non. Le lobby des deux grands syndicats de médecins, hein, la FMSQ puis la FMOQ, là, les médecins omnipraticiens puis les médecins spécialistes, non, on veut pas avoir les pharmaciens ici, nous autres. Les pharmaciens, ça a étudié 4 ans de temps à l'université, ça. Ça comprend ce que c'est, des médicaments.
Ben,
on aime mieux les avoir derrière une caisse enregistreuse dans un pharmaprix, puis à remplir l'ordonnance préparée par un médecin.
Ouais.
Écoute, quand on a un système qui craque de partout, faut faire quelque chose, ils veulent jamais rien faire, il se passe jamais rien, c'est un vrai scandale, j'en ai jusque-là de ça.
Bon, puis l'autre histoire aussi, ben qui est reliée finalement, là, c'est que les infirmières disent on est rendu à bout de souffle, là, elles le sont, puis c'est vrai, là. Mais les projets pilotes, là, les projets de quotas d'infirmières qu'on avait lancés l'année passée, ça en est rendu.
Ça marche pas, tu sais pourquoi?
Pourquoi ça fait un an qu'on est là-dedans et qu'on n'a pas encore mis en place les quotas d'infirmières dans les urgences?
Il y a au cœur des conventions collectives des infirmières une sacro-sainte, une affaire là, intouchable, la vache sacrée. Ils appellent ça le principe de la seniorité. Un principe de la seniorité, ça dit quoi? Ça dit que peu importe que tu sois bon, pas bon, que tu travailles fort, moins fort, compétent, pas compétent, il y a un seul critère qui s'applique, c'est la seniorité. Ça veut dire quoi en pratique? Une infirmière qui sort de faire ses études, elle rentre travailler, puis elle sait que pour au moins 10 ans, elle va travailler la nuit, puis les week-ends. Des fois, quand tu as 24-25 ans, là, tu te dis, y a-t-il moyen que ça soit autrement que ça? Alors, ils se demandent pourquoi ils ont des problèmes de recrutement. Les jeunes femmes, les jeunes hommes, parce qu'il y a autant d'infirmiers que d'infirmières, ils regardent ça puis ils disent, j'ai pas envie de passer les 10 plus belles années de ma jeune vie d'adulte à travailler la nuit,
à travailler
le week-end.
Sur des quarts de travail que personne ne veut faire.
Mais des quarts de travail que personne ne veut faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de seniorité.
Ouais.
Écoute, c'est avec des carcans comme ceux-là qu'on fait en sorte que les Québécois... faut savoir qu'il y a quand même une belle qualité à notre système. Notre système, les écoles, tant d'infirmières que de médecins, sont de très haute qualité et reconnues mondialement. Donc, il y a de la compétence, il y en a. Il n'y a personne dans ce système-là qui mérite d'être traité d'incompétent au plan médical. L'incompétence est dans la gestion question. L'incompétence est dans l'omniprésence syndicale. L'incompétence est dans tout ça. Mais le fait est que, comme Québécois, je suis loin d'avoir le service auquel je devrais avoir droit. Et je trouve
compte tenu de l'argent qu'on met dedans, en plus.
Hey, mais c'est énorme! C'est énorme! On arrive, on va approcher à 60 % dans 4-5 ans de tout le budget de la province. Écoute, avec une population vieillissante, c'est ça que ça donne. On n'est pas capable de s'offrir ce service-là. Ben alors, arrêtons de palabrer puis de faire blablabla, blablabla, blablabla. Faut régler le problème.
Puis on n'a pas parlé des CHSLD non plus.
Ah ben c'est ça, on pourra en parler longuement. Moi, j'ai mon père qui est dans ces établissements-là. J'en arrive, là, de l'Est du Québec, à Rimouski, ma ville natale, je te le dis, là. Je te le dis, là, j'ajouterai rien. Parce que je veux pas que mon père, en tout cas, je te le dis.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand t'es rendu en CHSLD, où la direction donne une marche à suivre aux infirmières, aux infirmiers, pour abandonner des soins qui sont jugés normalement essentiels. Là. Mais il y a tellement une pénurie de main-d'œuvre, il y a tellement de la fatigue accumulée, il y a tellement un manque de main-d'œuvre dans certains secteurs. On dit, ben là, ça, c'est des soins obligatoires qu'il faut donner aux gens. Mais voici quels soins obligatoires vous pouvez abandonner parce que vous êtes débordé, vous pouvez pas le faire. Il y a des gens qui restent, puis le rapport de... On en a parlé ensemble il y a quelques semaines de ça. Le rapport de la protectrice du citoyen était éloquent là-dessus. Il y a des gens qui sont restés au lit 36 heures de temps sans être levés. Pas parce que les infirmières sont incompétentes, parce qu'il n'y avait pas le temps d'élever.
Puis il y a des images qui marquent. Hein. Moi, il y en a une qui m'a marqué l'été dernier, quand on traversait, nous tous, une canicule assez incroyable, hein, dans les CHSLD. Évidemment, il crevait de chaleur, il faisait 40 degrés Celsius, t'es déjà pas bien, t'es pas en bonne santé. Il y avait juste l'autre côté des corridors, il y avait la section administrative, où c'est plein de bureaucrates qui poussent du papier et toute l'affaire. Eux, ils étaient climatisés.
Ben oui.
Moi, je trouve que c'était le plus bel exemple de ce qui est tout croche dans ce système-là.
Monsieur Lavoie, on se reparle demain?
Avec plaisir, Louis.
T'as pas détesté l'expérience, va renouveler ça demain?
Eh bien, tu peux être sûr, n'importe quand. Salut!
On s'arrête un moment. On revient dans un instant.